Le journal avec Raphaël Delvolvé. Bonjour Raphaël.
Bonjour Amélie, bonjour à tous.
La piste criminelle est envisagée après les événements de la cathédrale de Nantes. Une enquête a été ouverte pour incendie volontaire. On en parlera avec nos invités à 8h20. Ils seront pas moins de trois. D'abord le facteur d'orgue Nicolas Toussaint. Il avait inspecté l'instrument la semaine dernière pour la dernière fois avant sa disparition dans les flammes. Nous rejoindrons ensuite le premier adjoint à la mairie de Nantes, Bassem Assé, et monsieur patrimoine Stéphane Bern. Et puis notre invité à 7h50, là c'est un autre morceau de patrimoine sauvé de la crise, le festival d'Avignon, Ariane Ascaride, joue au Palais des Papes la semaine prochaine. Elle sera à notre micro ce matin. Dans le reste de l'actualité, Raphaël.
Le port du masque devient obligatoire dans les lieux publics clos dès demain, mais déjà des maires de France vont plus loin et imposent le masque, même dans la rue. Reportage à suivre. Et puis les 25 ans aujourd'hui de la commission Vérité et Réconciliation en Afrique du Sud et des bracelets à disposition des parents pour éviter l'angoisse d'un enfant perdu sur les plages. Nous en parlerons tout à l'heure.
France Inter.
L'émotion à Nantes au lendemain de l'incendie de la cathédrale.
Très vite, le feu a été circonscrit hier, mais les pompiers n'auront pas pu empêcher la destruction du grand orgue de la cathédrale, un joyau historique vieux de plus de 400 ans. Une enquête a été ouverte pour incendie volontaire. Les derniers éléments avec Gaëlle Joly.
L'hypothèse d'un incendie criminel reste privilégiée, selon le procureur de Nantes, car selon Pierre Sénès, trois points de feu distincts ont été relevés, assez éloignés les uns des autres, un au premier étage sur l'orgue et deux au rez-de-chaussée. De part et d'autre de la nef au sol. Mais les enquêteurs n'ont pu relever aucune trace d'effraction sur les issues de la cathédrale. Il est trop tôt pour tirer des conclusions, a dit le procureur. Il y a encore beaucoup de travail. Un expert incendie est attendu sur les lieux pour examiner ces départs de feu, mais aussi l'installation électrique de la cathédrale. Car selon l'évêque par intérim qui gère les lieux, François Renaud, cette installation électrique n'était pas vétuste, elle venait d'être contrôlée, mais elle pourrait, selon lui, être à l'origine d'un court-circuit issu d'une armoire électrique.
Et hier, le Premier ministre s'est rendu à Nantes. Jean Castex, accompagné des ministres de la Culture et de l'Intérieur, Roselyne Bachelot et Gérald Darmanin. Jean Castex qui plaidait pour une reconstruction la plus rapide possible. L'État, je le cite, y prendrait toute sa part. Toutes les informations et les images de l'incendie sont à retrouver sur notre site franceinter.fr. Demain, le port du masque devient obligatoire dans les espaces publics clos. Cela concerne les banques, les commerces, les marchés couverts. D'après Olivier Véran, le ministre de la Santé, les maires sont toutefois libres d'élargir la mesure, comme c'est déjà le cas depuis hier dans les rues piétonnes du Gros du Roi dans le Gard. Le maire, un ancien médecin, ne veut prendre aucun risque aux grandes dames des glaciers et vendeurs de beignets qui, eux, craignent de perdre leur clientèle. Sarah Nedjar.
Il y a beaucoup de passants devant le glacier Gelarté. Yvan, le patron, regarde le défilé des masques en comptant la perte sèche dans son tiroir caisse.
Un bon 50%, facile, 60%. Ah ouais, ce matin, on n'a rien foutu. On dirait qu'on est en temps de guerre ou je sais pas. Tout le monde est masqué, c'est très bizarre. Les gens, ils font un peu la gueule, ça consomme pas trop.
Malgré ça, Yvan est plutôt reconnaissant de l'arrêté municipal.
Je me dis que notre maire, s'il a pris cette décision, c'est pour notre bien à tous. Il connaît plus la médecine, tout ça, donc je pense que c'est pour ça qu'il a pris cette décision avant les autres.
Édouard de la boutique, le roi du chichi, est plus en colère. Pour lui, l'arrêté dissuade clairement ses clients d'acheter des glaces.
Bien sûr que ça dissuade. Les gens n'osent pas venir parce que le masque est obligatoire, donc ils ne savent pas s'ils peuvent l'enlever pour manger une glace, ce qui est complètement ridicule. Porter un masque dans les lieux ouverts. L'État a dit uniquement dans les lieux fermés. Déjà que la saison a été compromise à cause du virus, aujourd'hui elle devient plus que catastrophique avec ce nouvel arrêté du verre.
Pourtant la mairie l'assure, personne ne sera verbalisé s'il est surpris en train de manger une glace ou un beignet. L'important est de passer la majorité de votre balade avec un masque sur le nez.
Sarah Nedjar. Et puis dans la capitale où Paris-Plage a débuté, le masque est seulement recommandé. Paris-Plage doit durer jusqu'au 30 août prochain.
Ils sont des héros du confinement et le département de la Somme les a récompensés.
Une carte prépayée pour des femmes et des hommes qui ont donné du temps aux personnes âgées, aux malades ou encore à des enfants placés en foyer. Le conseil départemental leur offre donc 80 euros à dépenser dans des bars, des restaurants, des lieux de culture et de loisirs de la Somme. De quoi évidemment stimuler l'activité économique, mais aussi donc récompenser ces héros du quotidien. Élodie Touchet.
Avec ces cartes, c'est l'engagement des 7 salariés de Céline Caron qui est récompensé. Des infirmières, auxiliaires de vie, mobilisées au sein de la maison d'accueil pour personnes âgées de Bernaville. Malgré le stress, aucun n'a déserté.
Il y avait quand même un climat anxiogène et le confinement total dans les logements, voilà, ça demandait aussi au personnel de faire face à leur peur, d'être vraiment un soutien moral.
Un soutien du quotidien assuré aussi par la centaine d'auxiliaires de vie gérés à Bov par Martine Corna. Des AVS vitales pour les personnes âgées isolées.
Ils étaient déjà coupés de tous leurs repères, de leur famille, donc ça a maintenu le lien quand même un petit peu, et ce qui est primordial, quoi.
C'est quand même elles qui sont au plus près. Elles donnent le repas aux personnes. Non mais le fait d'être reconnues, c'est important, quoi.
Un travail reconnu et valorisé par cette carte de 80 euros à dépenser dans la Somme pour relancer aussi l'activité des cafés, restaurants et autres lieux de loisirs. Le concept séduit Laurence Prévost, infirmière coordinatrice chez les Petites Sœurs des Pauvres à Amiens.
Nous, on a eu la chance de pouvoir travailler en continu, mais il y en a plein qui ont eu du chômage partiel, voire peut-être des licenciements, des fermetures de cafés, de restaurants. Non, un grand merci pour cette idée.
13 000 cartes ont été distribuées pour un budget total d'1 200 000 euros.
Élodie Touchet. Toujours pas d'accord entre les 27 à Bruxelles. Le sommet sur le plan de relance des économies européenne continue ce dimanche. Les discussions reprennent à midi. La grande mission de l'Allemagne et de la France, faire infléchir les pays du frugaux, des États membres partisans d'une rigueur budgétaire comme les Pays-Bas ou encore l'Autriche. Il se montrait hier réticent, notamment sur la répartition entre subventions et prêts du plan toujours prévu pour atteindre 750 milliards d'euros.
L'Afrique du Sud célèbre aujourd'hui les 25 ans de la Commission Vérité et Réconciliation.
Institution créée sous Nelson Mandela et devant à l'époque mettre en lumière les crimes de l'apartheid, un grand dialogue national où la parole est donnée à la fois aux victimes et aux bourreaux. Le modèle de la Commission Vérité et Réconciliation a depuis été repris dans le monde entier. Toutefois, 25 ans après, les plaies ne sont pas toutes pansées dans la nation arc-en-ciel. À Johannesburg, Claire Bargelès.
Kone Gougouché se bat encore aujourd'hui pour que la mort de son père, Mapetla Morapi, soit reconnue comme un crime de la police. 25 ans après la création de la commission, elle est toujours en quête de vérité.
Certes, la commission a permis de libérer la parole, mais dans mon cas, les mensonges de l'État n'ont pas été révélés. Et c'est donc un échec, car nous n'avons pas pu tourner la page et avoir un sentiment de justice.
Mais pour l'ancien commissaire Dumisa Tsebeza, impossible à l'époque de boucler tous les dossiers et les recommandations de poursuites n'ont ensuite jamais été appliquées par les gouvernements successifs.
Les attentes étaient trop grandes. C'était impossible d'enquêter sur 34 ans en 24 mois. La justice aurait ensuite dû appliquer nos recommandations.
Depuis 2016, des dossiers ont été rouverts devant les tribunaux, comme le cas du militant Ahmed Timol. Pour son neveu Imtiaz Kadji, c'est un premier pas pour terminer le travail de la commission.
La commission était un instrument pour démarrer le processus, mais c'est resté inachevé. C'est pour cela que beaucoup de familles demandent aujourd'hui des enquêtes pour enfin savoir qui est responsable de la mort de leurs proches.
D'autres procédures judiciaires ont été lancées, mais elles sont pour l'instant mises en pause pour cause de pandémie. À Johannesburg, Claire Bargelès pour France Inter.
Les ministres des Finances des pays du G20 réfléchissent à une possible prolongation du moratoire sur la dette des pays pauvres. Conclusion d'une réunion d'étape en visioconférence hier à laquelle participaient aussi les chefs des banques centrales du G20. Un moratoire a été décidé en avril dernier au début de la crise sanitaire. Le G20 prendra une décision dans les prochains mois en fonction, je cite, de l'évolution de la pandémie. Avant de se quitter, ce dispositif proposé sur les plages de France cet été, comme depuis 6 ans maintenant, des bracelets pour enfants. L'objectif, c'est d'éviter des angoisses aux parents qui pourraient les perdre de vue. 22 000 bracelets sont mis à disposition. Les parents inscrivent dessus un numéro de téléphone à contacter. Pascal Jansou, directeur général des CRS dans le Sud-Ouest, explique l'intérêt du dispositif.
C'est une sécurité supplémentaire, alors qui ne doit pas faire oublier aux parents quand même que leur premier devoir sur la plage, c'est d'assurer la surveillance de leurs enfants, bien entendu. Hein. Ce n'est pas un bracelet, je dirais, qui permet aux parents de s'affranchir de toute obligation quant à la surveillance de leurs enfants. Et c'est un bon moyen pour nous, justement, de raccourcir cette inquiétude, parce que lorsque vous êtes sur la plage, vous avez perdu votre enfant, et qu'en face de vous, il y a l'océan, et qu'on constate une seule chose, c'est malheureusement la noyade, hein. eh bien, au moins, on réduit le risque au maximum de cette inquiétude-là, de manière à ramener l'enfant auprès de ses parents le plus vite possible.
Pascal Jansou de la Direction Générale des CRS dans le Sud-Ouest.
Merci Raphaël Delvolvé. On passe au temps de ce dimanche.
La météo avec Euromaster. Toujours là pour entretenir vos véhicules. Avec plus de 400 centres et 800 ateliers mobiles, les experts Euromaster sont partout au service de votre sécurité.
Avec Jean-Michel Golinski, vous nous dites que c'est chaud dans la moitié sud, ce sera plus frais près de la Manche.
Ah, tout à fait, à l'image du ciel, les températures de l'après-midi seront très différentes entre les bords de la Manche et le reste du pays. Il est prévu par exemple 34 degrés de la Charente au sud de la Garonne, 33 en Basse-Vallée du Rhône, 30 à 32 du Poitou au centre-Val de Loire, également à Lyon, Paris, Dijon et Strasbourg, il fera 29 à Alençon, 28 à Rennes, 26 à Lille et Amiens, mais souvent moins de 21 degrés sur les zones littorales de la Manche, où la journée sera plutôt grise, avec à la clé des intermèdes faiblement pluvieux, tandis que partout ailleurs le soleil sera très vaillant, avec de rares ondées possibles en cours d'après-midi sur l'est des Pyrénées, le sud des Alpes et la montagne corse.